Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc ce soir dans nos lectures en liberté pour la suite du récit de Charles-Juliette, Lambeau. Celle-ci, on se demande d'où elle vient. Ces mots, on te les lance. Quand tu déconcertes, qu'on ne sait comment réagir à ce que tu dis. Ils te meurtrissent profondément. Ils t'amènent à supporter que tu viens d'ailleurs, que le père et la mère ne sont pas tes parents, que tu n'es pas membre de cette famille. Pour réduire les occasions où on pourrait te le jeter au visage, toi qui déjà parlais peu, tu t'obliges à encore moins parler et à ne dire que ce que tu as attentivement pesé. La veille des grandes vacances, quand vous vous échappiez de l'école, tous se réjouissaient tandis que toi, tu ravalais tes larmes. Première circonstance où tu t'es senti autre, différente, comme mise à l'écart. Première blessure qui n'a jamais cicatrisé. En fin d'après-midi, tu redoutes ces instants où Germaine vient chercher son lait. Depuis que ses deux frères sont tombés devant Verdun, elle vit seule et souffre de sa solitude. Aussi, chaque soir, reste-t-elle le plus longtemps possible. Après avoir parlé du temps qu'il fait et débité les habituelles banalités, elle en vient à toi. Tu lui rends souvent service, elle t'a prise en affection, et dans le double but de te plaire et de s'attarder encore un peu, elle se met à chanter tes louanges. Toujours debout au même endroit, près de la cheminée, son bidon plein à la main, elle lève sa canne en ta direction et commence infailliblement par ces mots « Oh, elle ira loin, cette petite, elle ira loin !» Des mots qui se veulent agréables, mais qui paraissent te rejeter, te couper de ceux que tu aimes. Bonne à tout faire dans une famille fortunée, fille de salle dans une auberge, repasseuse dans un important hôtel de la ville où travaillent de nombreux employés, ton avenir t'angoisse. Un soir, la voix à peine audible, tu demandes au père si l'on ne pourrait envisager que tu apprennes un métier. Il refuse. Affirme que tu dois rester à la ferme, que tes jeunes sœurs ne sauraient se passer de toi. Ses lèvres non pas closes, mais scellées, vos repas pesamment silencieux, le dos courbé, sa bouche à hauteur de l'assiette et tu ne vois que le dessus de sa casquette. Les filles ne pipent mot ou se chuchotent furtivement quelques brèves paroles à l'oreille. Les regards craintifs que tu échanges avec elles, plus rarement avec la mère. Parfois il y a un léger mouvement de tête. Enfoui dans l'ombre, sous la visière, ses yeux brillent et rencontre les tiens. Le coude appuyé sur la table, son avant-bras droit décrit un quart de cercle et la main ouverte, il attend. Mais tu es attentive et sans avoir à chercher ce qu'il lui faut, tu places immédiatement dans sa paume le pain, la salière ou la bouteille qu'il désire. ce permanent et douloureux besoin de lui parler, de l'interroger sur son enfance, ses parents, sa jeunesse, sur ces terribles années qu'il a passées dans les tranchées. Mais si farouches sont ces silences que tu ne peux articuler le moindre mot. Après le repas, à peine est-il dans la grange, la tension tombe et les figues se mettent aussitôt à rire et à jacasser. Tu es seul et tu entends qu'on frappe à la porte. Avant même que tu ne répondes, il entre et laisse tomber son volumineux ballot au milieu de la cuisine. Tu sursautes et te reprends vite. Il ne prononce aucun mot et l'index dressé devant ses lèvres, le regard rieur, il part à reculons. Il revient quelques secondes plus tard avec une lourde malle en osier. Il l'ouvre, tire à lui le ballot, défait les nœuds de la toile à matelas et, en faisant le pitre, se met à disposer sur la table et les chaises draps, chemise de nuit, blouse, torchon, boutons, ceinture, ficelle, couteau. Il n'a toujours pas prononcé un mot et, avec un embarras grandissant, tu te demandes s'il ne serait pas muet. Puis il s'immobilise, écarte les jambes, porte les mains à ses hanches et part d'un bruyant éclat de rire, grand, bien découplé, tout de noir vêtu, un foulard mauve autour du cou, un ample béret posé à plat sur la tête et légèrement incliné sur le front. Son regard pétille, et sous l'épaisse moustache brune, les dents sont éclatantes. Enfin, il parle, d'une voix grave, chaude, qui te remue profondément. Les parents vont arriver pour le repas de midi et avant qu'ils soient là, tu prends sur toi de l'inviter à manger. Excité, redoutant la réaction du père, ébahi de te trouver seul face à cet étranger, tu veux néanmoins savoir qui il est, d'où il vient, s'il a une famille, s'il lui arrive de faire des rencontres intéressantes. Puis, sans que tu aies à vaincre ta timidité et à ton vif étonnement, tu t'entends lui parler de toi, ta vie, tes sœurs, l'ennui des dimanches, la rugosité du père, ton plaisir, lorsque tu gardes vos vaches à rêver de départ, les yeux fixés pendant des heures sur cette route blanche qui sinue en direction de l'ouest. Quand les parents poussent la porte, tes mains tremblent, tu vas et viens en te cognant à la table, aux chaises, t'irrites de ne pouvoir faire cesser les aboiements du chien. Passé la surprise, le père prend plaisir à cet imprévu et accepte avec bonne humeur de partager un repas avec ce guéluron. L'homme enchaîne aussitôt en racontant une histoire à propos de son mulet. Tu t'échappes et rejoins celui-ci dans la cour. Il est attaché à un arbre et tu lui parles, le caresses, lui apporte de l'avoine et de l'eau. Ses sabots sont blancs de poussière. Le harnais est posé sur une dalle et tu t'en saisis pour la seule joie de le tenir un instant dans tes mains. Tes deux plus jeunes sœurs sortent de l'école, elles t'ont aperçu et avec d'autres enfants arrivent en courant. Lorsqu'avec elles deux tu pénètres dans la cuisine, tu marques un temps d'arrêt en voyant le père s'esclaffer. Surprise de découvrir cet inconnu, elles restent interdites et ne savent comment se comporter. Pendant le repas, tu gardes le silence. Et à plusieurs reprises, tu sens le regard inquisiteur de l'homme se poser sur toi. Le père est revenu de la cave avec deux bouteilles. Et tu comprends que s'il fait bonne figure à l'étranger, c'est parce que celui-ci va lui donner l'occasion de boire plus qu'à l'ordinaire. Tu n'as pas vu passer le temps. Et quand tu te rends compte de l'heure, tu dois insister pour que les filles se décident à partir. Elles quittent la table sans que nul ne les remarque et tu les accompagnes jusqu'à la porte de la grange, insistant pour qu'elles ne s'arrêtent pas auprès du mulet. À la fin du repas, qui a traîné en longueur, tu te réjouis de voir partir le père avec un voisin venu le chercher pour ferrer une paire de bœufs. Ainsi restes-tu seul avec la mère. Et lorsque l'homme vous présente sa marchandise, tu la pousses à acheter le maximum d'articles. Quand il s'apprête à vous quitter, tu offres de lui porter une de ses malles, afin de pouvoir l'accompagner. Tu l'aides avec empressement à atteler le mulet, charger la carriole. Le manche de son fouet est torsadé, et il a un large rire lorsque tu lui apprends que tu n'en as jamais vu d'aussi beau. Dans un souffle, tu lui demandes s'il reviendra bientôt. Il lâche les rênes qu'il venait d'empoigner, pose sa main sur ton épaule et, te fixant dans les yeux, le regard soudain grave, te déclare que tu es un beau brin de fille, qu'il a eu beaucoup de plaisir à parler avec toi. Tu aides une voisine à ranger son grenier. Et vous avez la surprise de découvrir des casques, des sabres, des uniformes datant de la guerre de 1870. Au fond d'une armoire, sous de vieux sacs de pommes de terre, tu déniches une Bible en assez bon état. Tu la tapotes pour en faire tomber la poussière, puis tu l'ouvres. Et en t'agenouillant près de la petite fenêtre, lis la première ligne en haut de la page de droite. Faisant dévier mes chemins, il m'a déchiré et il a fait de moi une horreur. Tu la lis, la relis. Les mots te pénètrent, prennent possession de toi, font lever tout un magma d'idées confuses, rejoignent des questions que tu ne saurais formuler, mais qui sont toujours à rôder dans ta nuit. La tête appuyée contre le mur, ce volumineux ouvrage pressé contre ta poitrine, tu restes ainsi un très long moment, en proie à une joie mêlée de tristesse et d'angoisse. Quel destin va t'échoir ? Quelle sera ta vie ? Et ces obscures aspirations qui te travaillent, où vont-elles te conduire ? Tu voudrais dire à cette femme ce qui t'étreint. Mais tu ne sais pas parler, n'oses pas, crains de la voir sourire et l'après-midi se passe sans que vous échangiez un mot. Des images en toi glissent, se mêlent, s'enchevêtrent. Partir, certes, partir. Mais que rien ne fasse dévier tes chemins. Cette route que tu aimes tant à regarder est celle qu'emprunte au long des jours ce colporteur qui t'a laissé dans une telle souffrance.
C'est pourtant pas la mer à boire, disait la fille de Calais, de dire aux marins, aux Anglais, je vais vous le montrer, mon Pas-de-Calais. Mais il arrive certains soirs de dire je t'aime en étranger, et dans le fond de la mémoire, une voix répond en français. Je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. Du lundi au samedi, tourneur à Saint-Denis, et je t'aime. Une fois par semaine, amoureux de Paris, sur la Seine. Et depuis que tu m'aimes, amoureux de tes yeux, sans problème. Je ne suis pas marin, pourtant je viens de loin, et je t'aime. Je ne suis pas anglais, et pourtant tu me plais, je t'emmène. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est demain, il faut qu'on s'aime bien, pour hier, pour demain. C'est pourtant pas la mer à boire, disait la fille de Calais, de dire je t'aime un Anglais, un marin du Pas-de-Calais. Mais il arrive qu'un beau soir, on dise je t'aime sans y penser. Et ça fait mal à n'y pas croire, cette voix qui vient du passé. Je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. Il s'appelait Martin, Jean-Marie de Pantin,
et tu l'aimes. L'était plus qu'un marin quand t'étais dans ses mains, car tu l'aimes. L'était plus qu'un anglais, le Pas-de-Calais, ça ne vaut pas la Seine. Il n'y a jamais loin d'aujourd'hui à demain, quand on s'aime. Quand tu verras Pantin, Calais ne sera plus qu'un baptême. Hier c'était hier, et demain c'est demain. Faut que tu l'aimes bien, Jean-Marie de Pantin.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Charles-Juliette, Lambeau. Dès que tu peux t'esquiver un instant, tu grimpes en toute hâte dans ta chambre. Ouvre cette Bible et en parcours avidement quelques lignes. Tu ignores d'où viennent ces textes, à quelle époque lointaine ils furent écrits, qui étaient ces hommes qui ont su tirer d'eux-mêmes des paroles aussi justes et aussi vraies, mais cela ne te préoccupe guère. Leurs mots bruissent longuement dans ta tête. Ils te délivrent de ce qui t'oppresse, expriment ce que tu ressens, te donnent de la vie. Et à force de lire et relire certaines pages, elles se gravent en ta mémoire, si bien que lorsque tu ne les as pas sous les yeux, tu peux te les réciter et continuer de t'en nourrir. Sur un des 5 cahiers achetés au colporteur, tu recopies des proverbes, des sentences, ces paroles des prophètes qui t'ont touché au vif et t'aident à entrer en un contact plus intime avec toi-même. Parfois, le crayon à la main, tu les interroges, les commentes, les relis à ton expérience, tes doutes, ton angoisse, et progressivement, tu en viens à parler de toi. Consigner ce qui t'occupe. Te dire à toi-même ce que tu ne peux confier à personne. Ainsi, jour après jour, et sans t'en rendre compte, as-tu pris l'habitude de tenir très régulièrement ton journal. Ce monde que tu découvres en toi, il te passionne. Tu aimes ces instants où tu es seul, n'as rien à faire et où tu t'absorbes en toi-même. Écoute le murmure de cette voix que tu entends toujours mieux. Elle te dit des choses qui te surprennent, te déconcertent, s'opposent parfois radicalement à ce que tu penses, mais tu sais qu'il te faut les accepter et essayer de les comprendre. Cette voix inconnue, que veut-elle? Qu'a-t-elle à t'apprendre? Où va-t-elle te mener? Ce dont elle t'entretien se situe si loin de ta pauvre vie de petite paysanne que tu te sens écartelée. Il y a celle qui prépare la cuisine, fane, garde les vaches, prépare la bouillie des cochons, et il y a celle qui souffre de solitude, songe continuellement à la mort, se demande si Dieu existe, mais qu'ont-elles de commun? Combien tout cela te paraît étrange? Et ces questions sur toi-même qui ne te laissent aucun répit, auxquelles tu ne sais jamais que répondre. Ce monde qu'il te faut explorer quand tu t'avances en lui, il se défait, se dilue, perd la réalité qu'il semblait avoir à l'instant où tu éprouvais le besoin d'y pénétrer. Tu voudrais rencontrer en toi la terre ferme de quelques certitudes et tu n'y trouves au contraire que sable mouvant. Souffrance aussi de ne pouvoir communiquer avec la mère, non plus qu'avec le père. Elle qui s'use au travail et lui, muré, qui n'ouvre la bouche que pour ronchonner et bougonner des ordres. Atmosphère pesante, sensation d'être toujours décalé, sentiment obscur. Que ce qui gît en toi est plus ou moins perçu comme une tare et qu'il te faut veiller à le garder secret. Et cette autre souffrance à voir comment se comportent les habitants du village, comme rongés par un mal secret d'où ne résulte que défiance, suspicion, jalousie. La beauté de ce jour. La lumière de ce dimanche de juin où vous partez tous quatre en pique-nique. Tu es encore dans l'étonnement d'avoir pu fléchir le père, la joie de savoir que tu es libre de toute tâche, que ces heures à venir t'appartiennent. Et cette excitation à vous sentir seul, à échapper aux parents, à faire ce que vous n'aviez encore jamais fait. Vous tenant par la main, vous quittez le village en marchant d'un bon pas, impatiente de vous en éloigner. Vous riez, chantez, avez tant à vous dire que vous parlez toutes les quatre en même temps. Après 2 heures de marche, sur un chemin qui s'élève en pente douce au flanc de la montagne, vous arrivez dans ce pré d'où tu aimes à contempler le village et ce mince ruban blanc qui coupe le vert des prés et des bois. Cette route, elle se confond avec tes rêves, tes désirs, tes aspirations. Et dès que tu la vois, en toi, tout s'embrase. Un jour, partir, t'arracher à l'étau de la famille, à l'ennui du village, des hivers, et marcher, marcher, aller à la rencontre du monde, des villes, être clair et aimant, à la rencontre d'une vie délivrée de la souffrance et du mal. En ce jour, tu es autre, et elles aussi sont autres. Ce que vous vous dites et qui n'a rien que de banal, vous n'auriez pu vous le dire si vous étiez resté à la ferme. Et la nature, elle aussi, te paraît différente. À un point tel qu'il te semble n'en avoir jamais rien vu jusqu'alors. Le désir te vient de leur faire partager ton émotion et tu te mets à leur détailler ce que vous avez sous les yeux. Des maisons groupées autour de l'église, les toits d'ardoises grises, le fumet qu'aucune brise ne dissipe, les méandres de la rivière, les arbres qui l'abordent, le cimetière à l'écart du village, la géométrie des champs, les ocres bruns des vaches dans les embouchures, la variété de tous ces vers, cette mince route blanche par laquelle, l'une après l'autre, vous vous évaderez, l'épervier qui plane au-dessus de vous, la ligne rigoureusement horizontale où, des deux côtés de la vallée, les bois bordent les prés, puis, loin au-delà de la crête, la plus proche, vert noir des sapins, gris pâle des falaises, des montagnes plus hautes, plus sévères, aux formes heurtées. Et aussi cette immensité bleue, avec cette radieuse lumière qui inonde chaque chose, répand la vie et en ce dimanche vous insuffle pareille joie. Sous ce bouleau, tes sœurs assises devant toi, les mots coulent en abondance de tes lèvres, leur visage levé et tendu, leur regard étonné et avide. Tu n'as jamais autant parlé, et tu attends à dire qu'il te paraît que tu pourrais poursuivre ainsi pendant des jours. Tu évoques ces hommes qui ont vécu il y a des siècles et des siècles, leur racontes les malheurs de Job, les cris de douleur de Jérémie, les visions d'Ézéchiel, l'âme tendre et violente d'Osée, la solitude et la tristesse désolée de celui qui disait les choses les plus simples, n'était pas compris, qu'on a couvert de crachats et fini par cloué sur une croix. Quand ta griserie prend fin, tu t'aperçois que les ombres se sont allongées et tu découvres avec confusion que vous n'avez pas touché votre repas. Tu es gêné d'avoir trop parlé, d'avoir laissé entrevoir ce que tu tenais caché et vous mangez en silence. Puis vous restez étendu à rêver en regardant le ciel à travers le clair feuillage d'un bouleau. Quand vous entendez les cloches des troupeaux qui rentrent, vous vous mettez en route. La beauté de la vallée sous cette douce lumière qui décline. En toi, une grande paix, une joie immense et grave, la douce brûlure de cette affection passionnée que tu leur portes. Les deux petites ont passé leurs bras autour de ta taille et se pressent contre tes flancs. La grande te suit, sa main caressant ta nuque. Tu ressens en cet instant combien la vie est belle et bonne. Et tu te promets en secret de ne quitter ce village que lorsque toutes trois seront mariées. Le froid, la lumière grise, inerte, les taches d'humidité sur les murs et par endroits des plaques de plâtre se sont détachées, tu tressailles. Pense à un sépulcre. Ton travail achevé, il se trouve que tu es exceptionnellement seul en ce dimanche matin. Tu descends à la cuisine. Devant la cheminée, jambes offertes au feu qui flambe, tu lis des psaumes lorsqu'une irrésistible impulsion te saisit et te pousse à te rendre à l'église, moins pour assister à la messe que pour écouter le sermon. Sois attentif à ma clameur, je suis au fond de la misère, viens vite, réponds-moi, je suis à bout de souffle. Tu es toute vibrante de ces mots qui continuent de retentir en toi, et c'est avec une ferveur avide que tu t'apprêtes à recevoir cette méditation qu'une parole de l'Évangile a dû lui inspirer. Tu voudrais que quelqu'un t'aide à débrouiller ces pensées confuses que tu ressasses. T'aide à répondre à ces questions qui se font de plus en plus pressantes et t'empêchent d'éprouver une nécessaire joie de vivre. Tant d'énigmes auxquelles on ne peut échapper et qui pèsent nous sont comme un vrai fardeau. Pourquoi es-tu né ici, dans cette famille? Quand vas-tu mourir? Pourquoi le Père n'est-il jamais capable d'un mot gentil? Le destin te permettra-t-il de toujours veiller sur tes jeunes sœurs? Que te réservent les années qui viennent? Quel caractère aura l'homme qui deviendra ton époux? Parlera-t-il aussi peu que le Père? Si Dieu existe, pourquoi permet-il qu'il y ait la solitude, la maladie, la mort? Est-il possible qu'il se préoccupe à chaque instant de chacun des humains qui peuplent la terre? Pourquoi tient-il à nous faire renaître après la mort s'il tolère que cette vie ne nous apporte le plus souvent que déception, tristesse, amertume? Et puisqu'il sait ce que son fils a enduré, pourquoi n'a-t-il pas pris des mesures pour faire en sorte que nous n'ayons jamais à souffrir? Les larges traînées d'humidité sur les murs, tu frissonnes. Le silence rompu par les toux. Des femmes en noir, bras croisés, tassées sur leur banc, la tête enfoncée dans les épaules. Derrière toi, debout, quelques hommes. Une pesante atmosphère d'ennui, de vie figée, qui sourdement te pénètre et fait tomber ta ferveur. Voilà donc pour ce soir, donc, cet extrait du récit de Charles-Juliette Lambeau que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.